10h39 minutes dans le Point de Max à Boulevard 102.1. 88-971-1021, c'est le numéro pour me rejoindre en studio s'il y a quoi que ce soit par texto. Vous pouvez nous écouter sur le blvd.fm, l'application mobile Boulevard 102.1, le Twitch, twitch.tv/blvd/fm. Il y a aussi les ondes radio. Ça, c'était bien, bien populaire dans le temps. Parfois, là, vous allez trouver dans votre véhicule une radio sur laquelle vous pourrez nous écouter. Et sinon, il y a vos haut-parleurs intelligents à la maison. Ça, c'est de plus en plus populaire. Et vous pouvez dire un genre de « Hey Alexa » ou peu importe son nom. Là, écoutez BLVD 102.1, BLVD FM. Et vous devriez être en mesure de vous brancher tout au long de la journée. Que ce soit pour Marceau le matin, le Point de Max, On en jase le midi ou Gravel dans le retour, sans oublier Marceau le soir. C'est l'heure de retrouver un vieil ami. Et là, il a un nouveau titre. Longtemps, il a été mon ami libéral. Et là, maintenant, je pense que c'est un upgrade. Co-organisateur en chef du Parti libéral du Québec pour la capitale nationale. Ça sonne plus crédible, du moins, que mon ami libéral. Charles Fecteau, comment ça va?
Ça va bien, Max, toi?
Ça va très bien, content de te retrouver.
Ben, moi aussi, ça fait un bon moment. Là, on était actifs pendant les fêtes, puis là... Il n'y a plus de déboire au parti, fait qu'on se voit plus
ça.
Tard.
Moi, j'aimais ça de parler quand ça allait pas bien chez les libéraux, puis j'aimais ça m'amuser avec ça. Là, ça va bien, il n'y a plus de fun à avoir.
OK, c'est ça, ouais. Je comprends. Mais moi, ce que je trouve surtout, c'est que là, j'ai une belle progression, parce que j'ai commencé, première fois, candidat à la mairie.
C'est vrai.
Là, j'étais le gars qui avait perdu.
Oui.
Là, ça commençait à être lourd, fait qu'on a dit mon ami libéral.
Oui.
Puis là, je suis revenu en force.
C'est vrai que...
Fait que là, on part bien. Là, je redescends plus en bas de sol.
Mais je vais te demander d'ailleurs, pour commencer, Charles, un co-organisateur en chef du Parti libéral du Québec pour la capitale nationale, qu'est-ce que ça fait?
Ben essentiellement, puis je pense que c'est très similaire dans toutes les parties, il y a comme deux dimensions, OK? T'as tout qu'est-ce qui est... Parce qu'on l'a vu surtout avec le financement, là, puis je vais juste le rappeler. T'as toute la question qui est Assemblée nationale, puis t'as tout qu'est-ce qui est parti. Fait que moi, c'est vraiment au niveau du parti.
Je sais que vous avez de la misère avec ça des fois chez les libéraux.
C'est
là.
Ça. Non.
Les distinctions, des fois, ça peut être tough.
À voir. Mais moi, ce que essentiellement, c'est qu'il y a des gens qui travaillent pour le parti à l'Assemblée nationale, puis là, ils occupent des rôles pour la fonction, t'es comme député, pour... Puis après ça, tu travailles pour le parti dans une capacité d'organisation politique. Fait que moi, c'est vraiment le côté organisation politique en vue des élections qui s'en viennent là, quand même très, très vite. Et essentiellement, c'est que chaque parti a des candidats qui doivent représenter dans toutes les circonscriptions. Et là, on parle 125 circonscriptions, 125 candidats. Il faut des bénévoles pour chacun, il faut du financement pour chacun. C'est beaucoup, beaucoup d'organisations. Et donc, on va venir diviser le Québec souvent une première fois entre l'Est et l'Ouest. Donc, on va avoir des super organisateurs qui vont gérer tous les petits organisateurs. Et après ça, on va souvent avoir des organisateurs par région administrative. Capitale nationale, je te dirais Appalaches, Outaouais, Lanaudière, Montréal, peut-être Laval. Fait qu'on va diviser comme ça pour que avoir environ 10 à 20 organisateurs qui gèrent chacun, je sais pas, un 10, okay. 12 circonscriptions. Comme ça, ça permet de pas surcharger les employés à temps plein du parti. Parce que ça ferait beaucoup trop de courriels d'interrogation. Puis des fois, quand tu peux... tu sais, des questions plus simples d'accès à l'information ou de date, bien, c'est plus facile d'avoir quelqu'un plus proche. Fait que c'est juste un niveau. Donc moi, pour les prochaines élections, je vais me concentrer là, sur tout ce qui est l'organisation au niveau de la capitale nationale. C'est un très beau défi et j'ai très hâte. Mais ce que je tiens à mentionner, c'est que je parle encore à la radio à mon nom et je suis toujours pas... Au niveau du parti, là, je ne suis pas représentant du parti. C'est juste un poste de bénévole que j'occupe et qui me fait grand plaisir d'occuper.
Charles, ça va bien pour le Parti libéral du Québec. De nouveaux chiffres de sondage, là, on a beaucoup parlé hier, donnait le Parti libéral du Québec premier à l'échelle provinciale à égalité avec le Parti québécois, 33% des intentions de vote. Fait qu'une baisse d'un point à ce moment-là pour le PQ. Une autre hausse de 3 points pour les libéraux. Avec ces chiffres-là, quand tu regardes les sièges, puis ça, c'était important de le comprendre aussi hier, puis je l'ai mentionné à une couple de reprises quand je parlais des chiffres de sondage, avec son nombre d'électeurs potentiels francophones, le PQ est encore dans une relation relativement confortable, dans une situation confortable. Puis les chiffres de Québec 125, que les projections sont venues le montrer un peu hier quand ça a été mis à jour, le PQ est encore en territoire majoritaire. Moins confortablement, mais encore en territoire majoritaire. À quel point le Parti libéral du Québec se dit Oui, il va falloir aller encore plus loin et il va falloir en convaincre des francophones.
Bien, il y a trois choses là-dedans. Premièrement, entre le sondage et QC125, c'est un agrégateur. Ce qui veut dire que c'est une moyenne pondérée. En ce moment, c'est aux élections demain. Le PQ a 33 % et les libéraux ont 33 %. Le PQ est minoritaire. Mais puisque dans les sondages précédents, le PQ était, mettons, à 34, 35, peu importe, on fait une moyenne. Donc, le résultat le plus récent vaut, je sais pas, 50 % plus 25 % puis chaque sondage dans le passé vaut de moins en moins. Et ce que ça fait, c'est que présentement, avec ce mélange-là, on voit un PQ à 63, donc
qui
pile
exactement
sur sa majorité, puis des libéraux autour de dans la quarantaine. Là.
C'est 47, là, bon. Ça, exactement.
Donc, puis c'est très intéressant parce qu'on parle souvent du système électoral, qu'on veut le changer. On a entendu beaucoup Éric Duhaime avec quand Maïté Blanchet-Vézina est rentrée à l'Assemblée nationale, disant qu'elle représente finalement 500 000 personnes, puisque c'est le nombre de gens qui ont voté pour le PQ à la dernière élection et qui n'ont pas de députés.
PCQ, oui.
Le PCQ, oui. Trop de lettres, trop d'acronymes. Mais bon, ça a fait un peu une controverse, mais ce qu'il faut comprendre avec le système électoral présentement, comme tu as mentionné, francophone, anglophone, la répartition du vote, ça a un énorme impact. Donc, dernière élection, qui était quand même un point bas pour le Parti libéral là, depuis très, très longtemps, on avait quand même autour de, je pense, 15... Un résultat assez semblable au Parti conservateur. Dans les votes, là, mettons, c'était peut-être 16 % libéral, 13 % conservateur, quelque chose d'assez similaire. Puis on avait une opposition officielle avec 16 députés pour les libéraux, puis aucun pour les conservateurs.
Ce qui arrive avec les libéraux, de la façon dont ils vont chercher leur vote, on s'entend, le vote non francophone sera toujours libéral. Montréal est très libéral. Fait que de cette façon-là, chez les libéraux, t'es quasiment assuré de jamais aller super bas. Tu sais, t'as tout le temps des circonscriptions que tu es presque assuré d'avoir. Puis pour les libéraux, c'est là où le vote francophone devient hyper important. Ils sont sûrs ils descendront jamais les libéraux en bas de 15. Là. Mais ce qui va faire que tu vas former un gouvernement ou pas, c'est vraiment le vote francophone.
Ben exactement. Donc pour les libéraux, c'est un peu le défi parce que même s'ils sont en égalité avec le PQ, il y a quand même environ 15 sièges d'écart entre les deux partis. Puis on peut se demander, mais comment ça se fait? C'est que, vu que le vote est très concentré dans les circonscriptions plus anglophones, on parle souvent de Montréal, des châteaux forts, tout bonnement dit, là, en politique. Donc, admettons, avec du 60, 70, 75 %, bien, ça veut dire que, dès que tu passes le 51 %, tous les votes de plus, même s'ils comptent dans le vote populaire, sont gaspillés, dans le sens où ce qui... Il augmente le nombre de votes total que tu reçois, mais tu as quand même ta circonscription,
exact.
Tu l'as déjà. Ce qui fait que à l'échelle nationale, ben, le Parti libéral a 33 % du vote, mais vu qu'il y a plusieurs circonscriptions très concentrées, tant qu'il ne dépasse pas un certain pourcentage avec les francophones, il ne peut jamais former un gouvernement. Donc, pour les libéraux, c'est « go big or go home », dans le sens où pour former un gouvernement, il faut qu'il y ait pas juste un 33. Là, en ce moment, 33 % PQ majoritaire. Les libéraux, on parle du 40-42 parce qu'ils sont obligés, puis il faut vraiment qu'ils aillent chercher les francophones. D'ailleurs, dernier sondage, je ne sais pas si tu as vu, puis c'est peut-être une erreur statistique, mais chez les jeunes 18 à 34 ans, un bond de 11 points. Les libéraux sont premiers chez les 18 à 34 et les 65 ans et plus, 50 ans et plus. Ce qui fait qu'il y a juste les 18 à 30... Non, les 35 à 50.
Ouais.
C'est la tranche d'âge qui est dominée par les conservateurs. Ce qui est quand même spécial quand on y pense.
Mais chez les libéraux, le 18-34, quand tu montes de 11 %, je me dis, ça peut pas être autre chose qu'une anomalie. Là.
Oui, mais c'est une tendance. Clairement, ils ont monté, mais 11 %, c'est énorme. Là. Tu peux pas avoir autant de mobilité en deux sondages. Aussi, moi, ce qui m'a interpellé, c'est que ce sondage-là a un échantillon qui est insuffisant. À 740 répondants, en statistique, on veut au moins 1000 pour avoir un sondage qui est béton. Fait qu'il y a peut-être justement plus de risques. Je dis pas que le sondage a aucune valeur. Absolument pas. C'est un échantillon qui est quand même grand, mais ça reste qu'on peut se poser des questions là-dessus.
C'est un sondage qui était mené ça du 20 au 22 mars, celui qui était rapporté dans les derniers jours. Et là, ce matin, le Journal de Québec a mis la main sur un sondage léger commandé par l'équipe de Christine Fréchette, candidate à la chefferie de la CAQ. Puis ce qu'on nous dit, puis en même temps, c'est pas pour rien que l'équipe de Mme Fréchette a comme laissé couler ça dans les médias, c'est qu'avec Christine Fréchette, semble-t-il que la CAQ pourrait remonter jusqu'à 16 % des intentions de vote contre 9 % dans le sondage dont on parlait hier. Puis on a le chiffre aussi si c'était Bernard Drainville. Puis là, ça serait 10. Là. Fait que, en gros, Drainville ne changerait rien, la CAQ serait rayée de la carte, mais Christine Fréchette pourrait venir sauver des circonscriptions, possiblement. Mais là où c'est intéressant, c'est quand tu regardes les autres partis, le PQ serait toujours en tête, lui, à 32%, puis le Parti libéral du Québec à 28%. Là, on ne peut pas venir comparer exactement ces chiffres-là aux chiffres du sondage du 20 au 22 mars. Mais on peut quand même spéculer puis dire... ça serait possiblement des libéraux qui retourneraient vers la CAQ, des électeurs en ce moment libéraux déçus de la CAQ. Quand tu fais des simples mathématiques, là, c'est eux autres qui perdent des points puis qui retourneraient à la CAQ.
Oui, puis j'aimerais changer un peu le sujet, mais Christine Fréchette, commander un sondage, c'est plusieurs milliers de dollars. C'est pas quelque chose que tu peux juste commander sur Amazon, là. C'est beaucoup d'argent. Puis quand on fait une campagne à la chefferie, on a des budgets, on faut récolter les dons, là, ça peut pas sortir de poche. Je trouve ça quand même intéressant comme stratégie de chefferie. T'sais, de dire, on va commander des sondages, puis on va convaincre les militants du parti que je suis le meilleur candidat en sollicitant l'opinion de gens qui vont pas voter dans la course. Je sais pas si tu comprends, parce que ça, c'est un sondage population générale. Ouais. C'est pas un sondage membre de la CAQ. Fait que c'est comme vouloir influencer les membres de la CAQ en leur disant, on va être plus... accessible pour l'ensemble des Québécois, si c'est moi, que si c'est Bernard.
Exact. Fait que c'est-tu vraiment nécessaire de le faire dans le contexte où on s'entend là, en ce moment, là, je vois pas un monde dans lequel Bernard Drainville peut aller chercher à la chefferie?
Non, mais c'est ça, mais c'est une drôle de stratégie. Moi, on dirait que ça fait penser à une stratégie post-électorale, post-chefferie, en fait. Comme si l'équipe de Christine Fréchette, elle pense déjà à amorcer...
C'est déjà gagné, puis on va
ben,
de l'avant.
Presque,
puis...
parce que je veux dire ça, ouais. Ça contribue rien. Tu comprends que c'est vraiment, c'est pas les électeurs de la CAQ, c'est pas les membres de la CAQ qu'on vient chercher, c'est vraiment la population. Mais ce que ça fait, c'est qu'on parle en bien. On dit Christine Fréchette, elle est la plus populaire des chefs. On disait 44% d'approbation contre 43% pour M. Plamondon. Pour ça, c'est M. Milliard. Je pense que c'est... peu importe. Puis là, ça défile. Fait que là, c'est comme si on disait, pour les gens, regardez, ayez hâte qu'on finisse, parce que quand on va arriver, tu sais, on est vraiment en mode post-course à la chefferie. Bernard est déjà 6 pieds sous terre, puis là, on se concentre pour les élections. C'est quand même un grand tournant. Là. Moi, c'est ça que je remarque.
J'ai une question intéressante à te poser.
Oui.
Pour gagner autant de points, là, Charles Milliard, il a présenté quoi?
Il a présenté
son sourire.
Tellement d'affaires. Tu savais à quel point... Ça, c'est tellement l'argument qui revient. Qu'est-ce qu'il a présenté? Qu'est-ce qu'il a présenté? Il fait juste ça, présenter des affaires. C'est-tu un parti qui a rien présenté? À part de l'immigration puis un référendum? Devine. Parti québécois.
Qu'est-ce qu'il a présenté, Charles Milliard?
Il a présenté... Hey, il a présenté coupure. Un, il fait le tour du Québec. Les hôpitaux. Investir dans nos infrastructures, investir dans nos hôpitaux, limiter les grands projets... Faire une autre étude, vraiment une vraie étude de réalisation sur le tramway, là, une, là, pas 15, là, une. Limiter la bureaucratie sur les PME. Après ça, rémunération des stages. Gros, gros point qu'il a fait pendant sa campagne, rémunération des stages.
Mais durant sa campagne, OK, mais depuis quelques semaines, là, mais depuis qu'il a été élu, on voit pas Charles Milliard dans les médias, à part quelques sorties, il sourit, il a l'air sympathique.
Je te le jure, il y a tellement de contenu, puis peut-être qu'il sort pas, puis je vais donner une autre perspective, c'est parce que quand on sort de la chefferie, il y a une période de fusion entre le parti, entre l'équipe du parti puis l'équipe de chefferie, puis les deux deviennent une entité. Fait qu'après ça, il y a une commission politique au Parti libéral qui est responsable de la plateforme, et elle va travailler pour amener justement quelque chose de concret, et le livre de la plateforme électorale. Fait que pendant que ça s'est bâti, pendant cette période de transition-là, il faut rester à un certain point sur des généralités, parce que si on s'avance trop sur quelque chose qui finit pas dans le livre final, on a pris une promesse qui n'était pas une promesse.
Mais c'est ça mon point, c'était pas pour planter Charles Milliard. Je suis persuadé qu'il y a plein de contenu puis qu'il en a présenté du bon contenu. Puis moi, Charles Milliard, je l'ai toujours préféré à Pablo Rodriguez, même dans la première course, là. Mais c'est que depuis quelques semaines, les libéraux montent, mais les Québécois qui... changent leur intention de vote pour les libéraux, il n'y a pas d'autre raison que il a l'air rassurant, il a l'air sympathique. Puis c'est là où on voit à quel point la promesse de référendum fait mal au Parti québécois. Les libéraux montent en présentant rien, dans le concret, dans les dernières semaines.
Ouais, ben jusqu'à un certain point, encore une fois, t'sais, je veux dire, c'est pas... Mettons, en période électorale, il y a beaucoup plus de contenu. Là, il y en a moins.
J'ai hâte à la période. On va avoir toute une campagne, là.
Mais ça reste que... C'est pas parce qu'il fait pas un point de presse pour annoncer un nouveau projet qu'il en parle pas. Je vous le jure, il y avait une entrevue, justement, où il y a un journaliste qui disait « qu'est-ce que vous présentez? Puis il dit, voyons donc, je fais juste ça, présenter des choses. Ben, en fait, j'ai repris sa ligne. Qui présente rien? Parti québécois qui parle juste de référendum et d'immigration. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a vraiment rien d'autre en ce moment. Je veux dire, je peux retourner la question. Paul Saint-Pierre Plamondon, à part répondre à des choix des autres chefs, à part essayer de le planter, M. Milliard, parce que, honnêtement, sur Facebook, moi, ce que je vois du Parti québécois, c'est des réponses, là. Il aime ça répondre aux journaux, il aime ça répondre aux autres partis.
Mais Charles Milliard a embarqué dans ce jeu-là aussi dans les derniers
oui,
jours.
Mais c'est le fun, ça, c'est divertissant. T'as-tu vu le post qu'il a fait aujourd'hui?
Charles ou...
Oui, pour le poisson d'avril, c'était un gala de lutte.
Ouais.
Ça, c'était bon.
Oui, Charles Milliard, qui est un fan de lutte.
Un grand fan de lutte.
Ouais.
Fait que c'est ça. L'autre chose, mais si on revient au sondage qui m'a beaucoup fait rire, OK? Si Bernard Drainville devient chef de la CAQ augmente d'un point, mais le Parti conservateur du Québec recule de 4. Et après ça, ça veut dire que... Puis ces 4 points-là sont divisés comme suit. Il y en a un qui va aux autres partis, probablement le Parti populaire du Québec, je sais pas. Un qui va... au PQ, un à la CAQ, puis je pense un aux libéraux. Enfin, essentiellement, si Bernard Drainville devient chef de la CAQ, c'est tellement plus cool d'être à droite que les conservateurs perdent le tiers de leurs intentions de vote dans ce sondage-là. C'est ça que c'est avancé. Ça m'a beaucoup fait rire, c'est pas du tout le cas. Mais ça serait comme si Bernard Drainville devient premier ministre du Québec, avec puis il a quand même essayé de faire son virage à droite. Là. On s'entend que c'est comme ça qu'il se positionne. C'est rendu tellement plus... C'est plus cool d'être à droite. Fait que soit les gens vont encore plus à droite ou ils s'en vont à gauche. Ça m'a beaucoup fait rire. Mais c'est pas une vraie tendance. On s'entend que c'est juste un peu une anomalie de sondage. Mais ça reste que... C'est quand même drôle à analyser. Puis effectivement, Bernard Drainville est dans une situation assez difficile où il joue beaucoup du code aussi dans ses débats.
Ah ouais, puis il avait pas le choix. En fait, il fallait qu'il aille all-in.
Ouais, mais ça fait que quand il va perdre, il pourra pas rester.
Ben, ça, on le pense depuis des semaines.
Ça va être assez difficile.
Il ne fait que confirmer cette idée-là, là, je veux dire. Puis même au sein de la CAQ, là, je veux dire, oui, la confrontation directe est entre Bernard Drainville et Christine Fréchette, mais même ceux qui ont appuyé Bernard Drainville, là, ça pourrait être tough pour certains, puis il y en a qui vont décider de quitter. Là.
Mais en même temps, de l'autre côté de la médaille, je veux dire, ils n'ont aucun siège en ce moment. Fait que ces gens-là n'ont rien à perdre parce que même... Dans tous les cas, ils seront plus à la CAQ. Là. Ils n'auront plus de siège. Ils perdent tous leurs sièges.
Ouais.
Fait que c'est un peu un tout ou rien.
Parce
là.
Que dans la mise à jour de Québec 125 pour le nombre de sièges, là, la CAQ est rayée de la carte. Là.
Oui. Alors, je sais même pas si Christine Fréchette, si elle gagne, si elle va pouvoir se représenter dans sa même circonscription ou s'ils vont devoir la parachuter dans un genre de semi-château fort. Puis je sais même pas il est où.
C'est sanguinet, hein? Tu vois, en ce moment, ça va être tough parce que les projections dans Sanguinet, qui est la circonscription de Mme Fréchette, c'est 29 % PQ, 28 % PLQ, 20 % CAQ.
Hey, c'est
elle repasserait pas. Tu sais, des châteaux forts de la CAQ, il n'y en a pas, en fait. C'est trop un nouveau parti qui a été, on parle d'anomalie, là.
Oui.
La CAQ a été un genre d'anomalie dans l'histoire de la politique au Québec. Un parti qui arrive au bon moment. On est écœuré de la guerre fédéraliste-souverainiste. On prend un genre de milieu, puis on y va avec ça.
Oui, la troisième voie. C'est comme ça qu'ils l'ont appelé tout au long, la troisième fois.
Ouais.
La troisième voie. Puis...
Et là, Éric Duhaime veut reprendre cette expression-là, d'ailleurs, pour dire « Hey, il n'y a plus la CAQ, oubliez ça, la vraie troisième voie, ça va être les conservateurs. »
Ouais. Puis t'en penses quoi du positionnement? Moi, c'est ça qui m'intéresse parce que j'en ai déjà parlé où ce que les conservateurs sont dans une position très risquée. Avant, ils étaient plus sécuritaires. Il n'y avait pas de députés. Ça veut dire qu'il y avait environ 14-15 %. Ils pouvaient répondre aux sujets qui les intéressaient. Ils pouvaient éviter les périodes de questions. Puis ils venaient chez l'Assemblée nationale par leur propre initiative. Ce qui leur permet... Genre, tu peux bien filtrer ce que tu veux dire.
C'est vrai.
T'évites les controverses.
C'est un bon point.
Tu peux éviter tous les sujets qui sont un peu épineux, puis comme ça, tu fais vraiment un bon électoraliste. Là. Parce que tu fais juste... On dirait que tu fais jamais de faux pas. Là, ils ont une députée à l'Assemblée nationale. Ça a fait gronder un peu, mais je pense pas chez les troupes conservateurs.
Non,
je pense
ben,
que pour...
Moi, je continue de dire que pour Maïté Blanchette-Vézina, c'est un move... Moi, de laisser tomber tes citoyens comme ça... non seulement parce que tu leur avais toujours dit que tu allais rester indépendante jusqu'aux élections, ça, c'est la première chose, mais de laisser tomber tes citoyens de Rimouski en disant déjà que tu vas aller te présenter à Québec avec ton nouveau parti, moi, c'est ça le manque de respect. Là.
Oui.
Rimouski n'aura plus de députés là, dans les prochains mois, là, jusqu'aux élections.
Oui.
Ou si tu penses qu'elle va concentrer ses énergies, Maïté Blanchette-Vézina, oui. Pas à Rimouski. Mais certains, non. Elle ne se représente pas là. Fait que pour elle, je trouve que c'est ordinaire. Mais pour les conservateurs, je trouve que c'est un coup de circuit d'aller chercher ce visage-là qui est connu, que moi, je trouve qu'il a l'air d'une bonne politicienne. Tu sais, qui est...
Ben, mais habile.
Oui, vraiment. Mais le point que tu amènes est bon. C'est vrai que maintenant, Éric Duhaime la voulait cette place-là à l'Assemblée nationale, mais ça vient avec des responsabilités puis avec des risques.
Oui. Puis il y a l'autre chose aussi, c'est que, bon, en tant qu'organisateur, mais dans l'appelletrie où ce qu'elle veut se présenter, c'est pas gagné d'avance pour le Parti conservateur. Là. C'est en égalité avec les libéraux. Puis ça, c'est dans la capitale nationale.
Ça va être serré.
Tu verras sur le terrain, là, si tu vas me voir avec mon micro, mais ça va ressembler à ça. Fait que, tu sais, c'est même pas garanti. C'est ça qui est drôle aussi. C'est un changement. Puis finalement, si elle perd, elle a plus rien.
Ouais. Charles Fecteau, co-organisateur en chef du Parti libéral du Québec pour la capitale nationale. Un gros merci, puis on se reparle bientôt.
Ça fait plaisir, Max.
Au retour, l'open mic avec Audrey Pinchot.